Alors nous, on a pu interviewer Sylvain Griffaut, qui est maire de Melle, donc une petite commune de 6000 habitants dans les Deux-Sèvres. Il a fait l'IUT en 1996 et 97. À l'époque, c'était un DUT carrière sociale. Et c'était une année spéciale avec une option animation scientifique et technique. Pour revenir sur les grands points de sa carrière, il a créé une association qui s'appelle la Betapi en 1997. Donc c'était sa deuxième année de carrière sociale. Et cette association, elle revendique deux appartenances majeures. La première, c'est la culture autour des techniques et des sciences. Et la deuxième, c'est l'éducation populaire. Elle intervient auprès de jeunes publics, mais aussi des réseaux associatifs et professionnels, des entreprises et des grands publics, donc c'est assez ouvert. Au sein de cette association, il a été animateur scientifique, puis ensuite directeur. Et au total, il a passé 12 ans dans l'association. Ensuite, en 2007, il crée un café-concert qui s'appelle le Café du Boulevard. C'est un lieu de culture, de spectacle, de concert, etc. Et l'économie sociale et solidaire est mise en avant ici. Ensuite, en 2014, il commence à être attiré par l'engagement politique et il décide de se positionner sur une liste électorale qui sera élue pour un mandat. Ça marque ici le début de sa vie politique.
Oui, il se passe beaucoup de choses depuis des années, mais il s'en passe toujours beaucoup. J'ai été happé par l'engagement, j'étais très engagé, donc pour le coup par ces associations-là, très engagé dans la commune. Et donc j'ai intégré le conseil municipal du maire qui était élu depuis un mandat et qui m'a sollicité pour entrer dans son conseil municipal. Et donc j'ai fait tout un mandat comme simple conseiller municipal de 2014 à 2020. Et puis, voilà, ça a pris aussi un peu le dessus, donc c'est des successions de choses qui font qu'à la fin de ce mandat-là, un an avant la fin de ce mandat, il s'est posé la question de savoir est-ce que parmi la liste dans laquelle j'étais élu, certaines personnes seraient prêtes à porter une liste en 2020. Au tout début, j'ai pas forcément dit oui, moi, mais c'est arrivé assez vite au regard des personnes qui étaient dans la liste en place. Et puis pendant un an, une fois décidé, en fait, pendant un an, on a été quelques-uns de la liste en place, plus jusqu'à 70-80 personnes, à constituer un collectif pour porter une liste au municipal qui a eu la joie de voir les électeurs de Melle les lire pour prendre les destinées de la commune jusqu'en mars prochain. Voilà, et donc c'est comme ça que je me retrouve devant vous comme maire, après avoir eu ces expériences de vie. Voilà.
Alors pour commencer, on a remarqué pendant nos recherches que vous avez été scout, si je ne me trompe pas, étant plus jeune. Et donc si vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à le devenir, quelle expérience, nous raconter un peu cette expérience.
Alors quand on est scout, c'est scout toujours. En fait, on est scout toute sa vie en réalité. C'est une forme d'éducation populaire qui fait partie des plus anciennes formes d'éducation populaire, puisque le scoutisme de manière générale, c'est une pratique de ce qu'on appelle de pédagogie ouverte. Donc si on voulait la raccrocher aujourd'hui à des formes d'éducation populaire, c'est ce qui se rapprocherait le plus de la pédagogie Freinet. Mais le scoutisme, il y a différentes voies. Pourquoi je me suis retrouvé scout ? Parce que l'éducation est faite de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, je vais en parler, et aussi de l'éducation des parents. Donc pour le coup, c'est plutôt assez familial. Dans ma famille, il y avait cette tradition, parce qu'il y avait un mouvement de scoutisme à Melle, qui est un mouvement de scoutisme, là pour le coup, d'origine protestante. Parce qu'on est dans un territoire qui est assez marqué par le protestantisme. Quand j'étais petit, à 8 ans, on m'a fortement invité à faire du scoutisme. Et c'est donc dans cette pédagogie-là, pour moi, le plus important, c'est ce qu'on appelle la coéducation. Et donc, c'est vraiment une pédagogie qui amène les plus grands à accompagner les plus petits. Et donc, on rentre par phase. De 8 ans à 12 ans, vous avez les louvettes et les louveteaux. C'est assez inspiré par le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Puis, à partir de 12 à 16 ans, vous avez les éclaireuses et les éclaireurs. Et ensuite, vous avez les aînés qui sont moins encadrés. Et donc, tout le but, de ces pédagogies-là, c'est de faire en sorte que, ben, entre 8 et 12 ans, vous rentrez à 8 ans, vous ne connaissez rien, et c'est plutôt ceux qui ont 10, 11, 12 ans qui vont vous initier un peu aux pratiques pédagogiques, autant que les animateurs. Et donc, moi, ça m'a amené à faire ce cursus-là et à 17 ans, à me poser la question, est-ce que je continue, est-ce que je ne continue pas? Et en fait, ben, quand on a reçu, dans le scoutisme, on est assez bien guidé pour aussi à la fois rendre.
Et ben, comme vous venez de l'évoquer, vous êtes administrateur et créateur de l'association La Bétapie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association, même si vous venez de le faire, et la place qu'elle occupe aujourd'hui dans votre vie et les objectifs qu'elle poursuit un petit peu?
Alors, création 1997. J'ai été le seul salarié pendant 5 années. Un deuxième salarié m'a rejoint, qui est le directeur aujourd'hui, en fait, qui était le premier président. C'était la fin des emplois jeunes. Économiquement, c'était un peu dur. Donc, moi, j'ai quitté progressivement l'association en termes de salariat. Mais à ce moment-là, en 2003, il n'y avait qu'un salarié. Moi, je suis plutôt un développeur d'idées dynamiques plus qu'un développeur de structure. Et donc, en ce sens-là, avec Kim Delagarde, qui est le directeur actuel, on a une vraie complémentarité. Lui a une vraie force pour faire en sorte que des idées s'incarnent dans une association. Pour le coup, moi, j'ai fait peut-être un petit peu ce que je savais faire. J'ai fait de la politique. J'ai pris la présidence de l'association en 2004. Et donc, je suis allé défendre le projet de l'association auprès des élus locaux, auprès d'instances. Alors, la Bétapie est fortement imprégnée de cette identité de l'éducation populaire qui vient du scoutisme, même si, quand on regarde la Bétapie comme objet, il y a des outils pédagogiques qui sont les mêmes, la coéducation, la progression personnelle de chacun, le fait de se servir de la vie quotidienne comme un ressort éducatif, mais il n'y a pas le scoutisme comme décorum. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une association qui s'est développée petit à petit, et une association d'éducation populaire sur un champ sciences techniques. Alors, on a ajouté un peu l'environnement, forcément, parce qu'il y a eu des demandes, et que dans les séjours qu'on propose, il y a beaucoup de séjours sur les sciences et techniques, mais il y a aussi des séjours dans le domaine environnemental. Et si je résume ce que poursuit la Bétapie depuis le début, on a aussi ajouté le numérique, parce qu'il y a eu des fortes demandes pour vulgariser toutes les techniques numériques, et le monde devient tellement numérique qu'il y a un vrai besoin d'appropriation des moyens numériques. La devise qui reste, ou du moins le précepte, c'est comprendre le monde. Donc comment est-ce qu'on donne des outils aux gens pour comprendre le monde, comprendre les sciences pour regarder le monde et y agir en citoyen.
Pourquoi est-ce que vous ne faites pas partie d'un parti politique?
Ah, parce que c'est chiant. Alors, pourquoi je ne fais pas partie d'un parti politique? Parce que je fais partie de plein d'autres trucs. Enfin, que je suis toujours scout. Dans l'âme, j'adhère. Chaque année, je prends religieusement mon adhésion pour soutenir le mouvement, parce que voilà, ça me porte en termes de valeurs et que ça me permet de rester au contact de valeurs que je défends. Parce que je suis toujours actif à la Bétapie. Parce que j'ai créé une autre association qui s'appelle La Ronde des Jurons, qui est une association de production artistique, que ça m'a nécessité. J'en ai été salarié et ça m'a demandé aussi beaucoup d'engagement. Et que donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais adhérer à un parti politique. Quand j'étais plus jeune, pendant mes études, j'ai fait des conneries comme tout le monde, des conneries politiques, j'ai collé des trucs, voilà, j'ai collé pour... Voilà, j'ai toujours été plutôt influencé par peut-être des mouvements qui sont vus aujourd'hui comme radicaux, même si je ne me définis pas comme radical, alors que d'autres me collent une étiquette de radical. Mais ma formation dans le domaine du scoutisme, et là je reviens à ça, c'est vraiment une formation qui amène chacun au libre arbitre. C'est-à-dire en fait, j'ai suffisamment de connaissances de mon environnement, des gens qui sont autour de moi, pour prendre des décisions en connaissance de cause. Il se trouve qu'aujourd'hui, être engagé dans un parti politique, si vous l'affichez, au moment où le parti décide un truc, vous devez dire comme le parti, quoi. Et qu'il n'y a plus... Alors, je ne l'ai pas vécu il y a longtemps, mais j'ai le sentiment qu'il y a une époque où les partis politiques étaient des vrais lieux de formation pour les élus, mais qu'il y avait une grande pluralité et qu'ensuite, c'était des grandes forces pluralistes pour tout le monde.
Okay. Et sur la commune et ses habitants, vous diriez que les habitants de Mel, ils témoignent d'un fort engagement social, associatif?
Alors c'est une vérité parce que la commune de Mel, elle est ça au départ. Il y a au moins 120 associations différentes qui sont basées à Mel. Alors Mel est une commune qui est au centre d'un territoire qui fait 48 000 habitants dans lequel il y a d'autres chefs-lieux de canton. Mais il y a pas une association qu'on n'a pas. Je veux dire, enfin, quand les gens ont envie de faire un truc, paf, ils créent une association. C'est ancré. Et parce que c'est une commune dans laquelle l'éducation populaire est un ressort. Et c'est là où il y a des vraies identités de communes différentes. Et c'est pas des identités qui se décrètent, c'est des identités qui se cultivent avec les années. Pour que dans une commune, les gens se saisissent, se sentent concernés par ce qui s'y passe et s'engagent, si quelqu'un s'y met demain comme élu, il faut pas qu'il pense que parce qu'il s'y met demain à une dimension d'accueil, dans les deux ans, c'est réglé, tout le monde s'engage, quoi. C'est vraiment une culture qui est très longue, qui peut aussi se venir à l'envers en fonction de comment on défend les choses. Mais la manière dont on fait les choses à Mel, c'est qu'on prolonge une vieille tradition d'accueillir. Et plutôt que donner systématiquement de l'argent, on met à disposition des moyens techniques qui permettent aux associations ou aux initiatives de se tenir dans l'espace public, dans une salle, dans un gymnase. Et ça, c'est jamais un frein. C'est jamais un frein pour personne.
Ok, maintenant on va reprendre un point important un de vos engagements importants. On se demandait à quel moment de votre vie vous avez décidé de prendre position sur les méga bassines et pourquoi.
À quel moment de ma vie? Je pense qu'à partir du moment où j'ai eu connaissance de ce sujet-là, j'avais un avis assez arrêté. Après, je viens de la Bétapi où on dit qu'il faut d'abord essayer de comprendre les sciences.
Oui.
Donc, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir ce qui était écrit là-dessus, comment c'était mis en œuvre, à quoi ça servait, à qui ça servait, etc., etc. Quand je l'ai fait, il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que c'était une grosse bêtise. Ce n'était pas une bonne solution, en particulier parce que ça ne sert que quelques personnes. Pour donner un exemple, il n'y a que 6% des agriculteurs qui irriguent, et dans ces agriculteurs-là, les réserves ne sont destinées qu'à 12%. Donc quand vous faites 12% de 6%, oui, ça fait quand même très très peu d'agriculteurs. Donc c'est forcément pas un système qui va permettre de faire évoluer l'agriculture. C'est un système qui va permettre à certains qui font certaines productions qui sont importantes en grande partie pour l'exportation, de pouvoir maintenir. Et donc c'est plutôt un système de coopératives et de banques qu'un vrai système agronomique. Le conseil municipal a pris une ce qu'on appelle une motion qui disait en gros que la commune de Mel était contre le fait d'implanter des réserves de substitution, considérant que c'était mal adapté à l'évolution du climat et à l'évolution nécessaire de l'agriculture au regard de ce climat-là. Là, pour le coup, à Mel, c'est vrai qu'on est allé au bout de l'engagement en accueillant à plusieurs reprises des événements autour de l'eau, autour des réserves de substitution et surtout autour du fait de s'opposer à ce système-là. Donc personnellement, en 2017-2018, en tant qu'élu, avec la commune qui partage cette position-là, 2021, je crois. Et en fait, on s'est mis dans cette démarche-là. C'est-à-dire, en fait, la manif Sainte-Soline 2 était interdite. Elle a eu lieu et ça a été le carnage qu'on connaît. Ce que la commune a proposé aux organisateurs, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'organisateurs. Bassine No Merci et les Soulèvements de la Terre sont des collectifs informels qui rassemblent tout un tas d'associations. Donc, en accord avec la majorité municipale, moi, ce que j'ai dit, ok, on accueille un forum de l'eau ce jour-là. Par contre, c'est un grand rassemblement. Donc il y aura des structures qui vont le porter.
Et comme ça ne peut pas être des soulèvements de la terre, ou pas sinon merci, il faut que vous trouviez des structures qui veuillent bien porter votre événement. Et là, il y a deux structures qui l'ont fait. C'est le syndicat Sud Solidaire et l'association nationale ATTAC, qui toutes les deux ont coporté administrativement, qui ont signé le dossier et qui ont fait bénéficier le rassemblement de leur assurance.
Question, ce serait plutôt un conseil, un mot que vous donneriez à une personne qui voudrait s'engager pour sa ville, pour la communauté ou dans une association. Voilà.
Eh bien, allez-y. Alors, c'est facile de dire ça comme ça. Vous avez dû entendre... Il y a un grand paradoxe aujourd'hui. À la fois, tout le monde pense avoir les bonnes idées et pense qu'il faudrait que les élus fassent comme ça. Mais les élus, ils sont élus et il y a des gens qui les ont élus. Donc moi, à aucun moment, je ne délégitimerai des gens qui sont présentés au suffrage du peuple et que le peuple a élu. Qu'il y a eu 30% de participation, 40% de participation, 50%, 60%, 70%, 100%, etc., etc. Les gens qui disent « Oui, t'es pas légitime parce que t'as été élu par 30% de la population. » Ah ben, va te faire foutre. Je dirais à un moment donné, on est quand même dans un pays où les élections sont encore libres.
Et merci à vous d'avoir écouté ce moment de partage. Ce que nous retenons de cette rencontre, c'est la richesse d'un parcours construit à la croisée des chemins. Celui de l'éducation populaire, de l'animation scientifique, de l'engagement politique, mais aussi tout simplement d'un engagement humain. Être maire sans étiquette, créer une association de culture scientifique quand personne ne l'attend, accueillir des forums citoyens quand la préfecture grince des dents, c'est assumer de faire de l'éducation populaire un vrai levier d'action. Ce qu'on découvre aussi, c'est que l'animation n'est pas qu'un métier ou un souvenir de jeunesse. C'est un outil politique, un outil de transformation sociale, un mode d'être au monde. Dans un monde où les partis semblent diviser plus qu'ils ne rassemblent, où les luttes sociales peinent à se renouveler, où les jeunes ont parfois du mal à trouver leur place, cette parole est précieuse. Elle rappelle que militer, ce n'est pas forcément défiler, mais transmettre, faire avec les autres et créer des espaces pour comprendre le monde. Finalement, à Mel comme ailleurs, on peut faire de la politique autrement, à condition de garder une boussole, celle de la justice, de la culture et de l'émancipation. Merci à notre invité pour son temps, son franc-parler et son énergie contagieuse. Et à vous aussi qui nous écoutez, n'oubliez pas que l'engagement n'a pas besoin d'un grand costume. Parfois, une tente, un tournevis ou une réunion d'assaut suffisent pour commencer. À très bientôt pour un prochain épisode. Bisous mes petits loulous.